Chapitre 6. Dans la barge orange, Tom et Freddy avaient retrouvé un semblant d'harmonie. Maintenant que le premier anniversaire de la mort de son enfant était passé, le blond paraissait moins prompt à réagir à la moindre vétille. Sans en parler à son compagnon, il eut envie de prendre un peu de bon temps en cette matinée de juillet ensoleillée. Déviant de sa route habituelle, Tom mit le cap sur l'île Bonaventure, alors que Freddy était installé dans le fond de la barge pour accrocher la bouette aux hameçons de ses lignes. Tête baissée, ce dernier ne s'aperçut du changement de direction qu'au moment où son beau-frère s'exclama « Regardons ça, les phoques autour de l'île, je pense que j'en ai jamais vu autant ». Tom se leva dans le bateau et pointa un endroit près de l'île Bonaventure. Les dernières semaines avaient été harassantes pour les pêcheurs, qui enfilaient les heures sous le soleil de plomb de cet été sans pluie. Tous arboraient un teint hâlé, les mains remplies d'ampoules et de coupures malgré les manigots que leur fournissaient leurs femmes. La chevelure de Tom avait la même pâleur que celle de sa fille Philomène, et sa moustache fournie lui mangeait la lèvre supérieure. Il passa sa langue sur les poils blonds avant de prendre une décision. On va aller les voir de plus près. On peut bien prendre une heure pour relaxer un peu. Comment ça? Tu m'as jamais averti qu'on changeait de cap? Embarrassé d'avouer qu'il ne désirait pas s'approcher de l'île à cause de sa peur des fous de bassin, Freddy chercha une autre excuse. Me semble qu'on devrait plutôt rejoindre le banc des Américains au plus vite. J'ai pas fini de ramasser les concombres dans le jardin et j'aimerais ça donner un break à Maddie. Tom ne répondit rien, peu désireux de parler de sa belle-sœur et de cette seconde grossesse. L'estomac tordu, Freddy, quant à lui, imaginait déjà les fous de bassin, les guillemots marmettes, les cormorants et les autres oiseaux marins s'approcher de la barge pour le narguer. Seuls les goélands et les mouettes trouvaient grâce à ses yeux. Ils étaient plus petits et surtout le pêcheur les côtoyait depuis l'enfance. Mais quand il pensait aux volatiles vivant sur l'île, des sueurs froides le parcouraient. Tom, déterminé à se diriger vers les phoques gris, tourna la barge en ce sens. Il précisa pour Freddy « On va en profiter pendant que les touristes de la Clark Steamship sont encore couchés. Bientôt, ils vont envahir l'île, puis crois-moi que cette belle colonie de phoques va vouloir les fuir. » J'haïs tellement ça les voir se promener avec leurs belles robes et leurs complets chics comme si la bonne aventure leur appartenait, s'opposa Tom en naviguant habilement vers la baie des Marigots, sans plus attendre. Freddy aurait voulu protester que c'était une perte de temps et que les morues ne les attendraient pas, mais pour être bien honnête, il savait que la présente saison était l'une de leurs meilleures. Ils en étaient déjà à plus de 200 quintaux de morues pêchées. Le brun serra sa casquette dans ses mains avant de la poser sur sa tête fournie, et il inspira profondément pour cacher sa détresse. Personne, même pas sa femme Madeleine, ne connaissait sa phobie des gros oiseaux marins aux pattes verdâtres. Il avait l'impression que les yeux bleu clair cerclés de gris de ces animaux pouvaient pénétrer son âme s'ils croisaient leur regard. Une bonne fois, on pourra aller voir William Duval pour lui demander de nous amener à la colonie. S'exclama Tom en pointant une maison de bardeaux sur l'île. « Il est le mieux placé pour nous parler du sanctuaire. » Le blond se tut un moment pour contourner habilement un rocher. Les vents étaient légers et il lui fallait passer par-dessus les travers pour amener la voile à bien faire son travail. Occupé, il ne s'aperçut pas que son beau-frère était figé et ne l'aidait guère. Faisant semblant de s'intéresser aux propos de Tom, le jeune homme respirait par petits coups, la tête rentrée dans ses épaules larges. S'il n'était pas si apeuré à l'idée de s'approcher des fous de bassin, il se serait réjoui d'entendre son beau-frère s'adresser à lui de manière aussi désinvolte, comme avant la tragédie qui avait emporté Éloi. Mais toute l'énergie de Freddy était canalisée vers le fait de s'assurer de ne pas hurler à Tom de s'éloigner. Qu'est-ce qui lui prenait de longer ainsi l'île Bonaventure? Se questionnait Freddy horrifié. Tournant la tête vers l'autre pêcheur, il lui jeta un regard entre ses paupières à demi fermées. La barge se dirigeait à présent vers le plateau, où la grande majorité des oiseaux blancs nichaient. Comme si le capitaine avait lu dans les pensées de Freddy, il ajouta d'un ton léger, « Si tu veux, on s'arrange pour passer le plus près possible de la colonie. On l'a jamais fait ensemble. Tibouk m'a dit que la semaine passée, il s'est ancré pas loin pour les observer une bonne heure. À son avis, les oiseaux doivent être rendus pas loin de 10 000. T'imagines ça, Freddy? Pour la première fois, depuis qu'il avait pris la décision de voguer vers l'île Bonaventure, Tom regarda directement son beau-frère. Il fronça les sourcils devant la mine souffrante de ce dernier. « T'es malade? T'es tout pâle? »«
Non, non, un peu l'estomac à l'envers. Ça va passer. »«
Tant mieux. »«
Bon, taisons-nous si on veut que les phoques restent sur place. »
Après un dernier coup d'œil à Freddy, Tom jeta l'ancre dans la mer. Il la regarda s'enfoncer un court moment. Depuis la mort de son fils, il n'était plus capable d'observer le fond de l'eau plus que quelques secondes. Chaque fois, son cœur se serrait à l'idée de la terreur qu'avait dû ressentir Éloi lorsque son corps s'était enfoncé dans les flots glacés. Le long de la côte, à une cinquantaine de pieds du bateau des deux hommes, les phoques gris, aussi nommés phoques à tête de cheval, poussaient des hurlements aussi puissants que des cris de loup. « J'en ai jamais vu autant sur les échouries », murmura Tom pour lui-même. Freddy ne prononçait pas un mot, occupé à contrôler sa panique. Mais sans même s'en rendre compte, il fut distrait par les animaux qui plongeaient et restaient de longues minutes sous l'eau glacée. « Ils sont vraiment gros », constata l'homme en tournant la tête vers Tom.
« Puis pas mal curieux »,
ricana ce dernier en levant le bras pour pointer un phoque qui nageait dans leur direction. Les deux pêcheurs se penchèrent du même côté de la barge et ils observèrent l'animal marin solitaire qui se dirigeait vers leur embarcation sans aucune inquiétude. Silencieux, ils regardèrent la grosse bête grise prendre les devants, suivie par quelques autres phoques qui conservaient une bonne distance entre eux et ces êtres à deux pattes qu'étaient Tom et Freddy. Dans un balai gracieux, l'animal massif à l'étrange tête allongée plongeait, puis il restait de longues minutes sous l'eau, avant d'en ressortir sans quitter le bateau de ses yeux noirs comme de l'ébène. « Une beauté !» chuchota Tom en souriant furtivement à son beau-frère. Freddy avait presque oublié la proximité des oiseaux marins lorsqu'une volée de guillemots les survola en poussant des cris aigus.
« Oh, Saint-Crème !»
s'exclama-t-il en tombant sur le derrière dans le fond de la barge. Blanc comme un drap, les mains crispées sur les bancs d'épinettes de chaque côté de lui, Freddy souffla à quelques reprises pour reprendre ses esprits. Tom délaissa aussitôt sa contemplation des phoques pour s'approcher de son beau-frère. «
Voyons donc, toi, qu'est-ce qui t'arrive? »
demanda-t-il en tendant la main pour aider le jeune pêcheur à se relever. Freddy avala sa salive, les yeux fixés sur un large groupe de fous de bassin qui venait de se poser le long de la paroi de l'île. Incapable de détacher son regard de ce danger potentiel, il balbutia nerveusement
« Ringes sur... Oh, Seigneur !»
Comme une dizaine de nouveaux oiseaux s'approchaient d'eux, Freddy se projeta de nouveau au fond de la barge et se glissa sous le banc. Plissant le front avec incompréhension, Tom réalisa tout à coup la vérité.
« As-tu peur des fous de bassin, Freddy ?»
Sachant qu'il deviendrait la risée du village lorsque la vérité se saurait, le jeune brun secoua la tête, mais l'autre ne fut pas dupe. Il s'assit sur son banc, à l'étambot, et frotta son menton sans parler. Puis, lorsque Freddy émergea lentement hors de sa cachette, en fixant les oiseaux d'un œil craintif, Tom répéta, sur un ton estomaqué,
« T'as peur des fous de bassin? J'ai mon voyage. Depuis quand? » « Mais semble qu'on ait passé 1000 fois autour de l'île depuis 4 ans et t'as jamais rien dit. »«
C'est ça. Ris de moi. » Tom hésitait en effet entre le fou rire et la pitié. Freddy avait les mains tremblantes et il se tenait le plus loin possible de la côte, comme si le fait d'être à l'autre bout du bateau changeait quelque chose à la situation. Sans dire un mot, Tom se pencha pour retirer l'ancre de la mer. Il tira la grosse corde pendant de longues minutes et déposa enfin le grappin dans le fond de la barge. Ne sachant comment réagir, il réitéra sa surprise.
« Je comprends pas comment t'as fait pour cacher ça.
D'habitude, on passe pas si proche de l'île. »
marmonna Freddy en s'assoyant à l'avant.
« Et j'ai jamais regardé. Mais disons qu'aujourd'hui, tu m'as pas donné le choix. »
Les hommes ne prononcèrent pas un mot pendant que l'embarcation repartait vers le large. Tom réfléchissait à toute vitesse. Et s'il se servait de cette information pour que son beau-frère choisisse d'abandonner son poste de second? En principe, c'était lui, Tom, qui déterminait le cap de leur barge, et il pourrait avoir envie, tout d'un coup, de passer près, très près du sanctuaire d'oiseaux tous les matins. Si Freddy éprouvait une telle phobie des fous de bassin, il ne résisterait pas longtemps à un tel traitement. Il faut juste que je me demande si je peux être aussi méchant que ça. Pensa Tom en gardant les yeux clos pour éviter que l'autre ne lise dans ses pensées. Viendrais-tu avec moi voir Jacqueline? S'informa Clémence en repoussant son assiette. Elle jeta un regard rempli d'espoir vers Simone, qui essuyait la bouche de Béatrice, pressée de descendre de sa chaise pour rejoindre Philomène et Gustave sur le balcon. Mettons que ce serait vraiment pour te rendre service. Une heure passée avec notre frère, c'est assez pour me faire gagner mon ciel, répondit la jumelle en détachant le haut de sa robe beige. Bon, sang qui fait chaud. Je suis tout en sueur. C'est moins pire qu'à Rimouski, je peux te le dire. Ici, au moins, on a de l'espace pour respirer. Simone jeta un coup d'œil vers sa cadette, dont les cheveux châtains frisottaient joliment en raison de l'humidité. Elle passa ensuite une main dans les siens, en regrettant de les avoir fait couper aussi court. Madeleine et elle avaient toujours dit qu'elles mourraient avec la même tête que quand elles avaient 10 ans. Mais même sa jumelle avait succombé à la tentation, et elle se retrouvait à présent avec une coupe au niveau des épaules. La mère de famille envia aussi la taille fine et le corps élancé de sa cadette. « Je te dis que ça fait longtemps que j'ai pas eu ta silhouette », clama-t-elle en ramassant les assiettes sales. « C'est normal, Simone », répliqua sa sœur. « J'ai pas 3 enfants, moi. »« Ah, j'arrête pas de dire des niaiseries, excuse-moi. » La brune ferma les yeux momentanément, puis elle leva la main. « C'est correct, Clémence. C'est vrai que toutes ces grossesses changent un corps. » Mais même avant, j'étais pas mince comme toi. En tout cas, on verra bien si tu restes aussi svelte après avoir eu des bébés. D'ailleurs, en parlant de ça, penses-tu que tu vas t'y mettre à un moment donné? Parce que je te le dis tout de suite, ça risque d'être la première question que va te poser notre cher frère. Non, en fait la deuxième. Le premier sujet sera plutôt tes fréquentations. Et comme de fait, moins d'une heure plus tard, Jacqueline, après une accolade maladroite à cette sœur cadette qu'il connaissait bien peu, s'informa de son futur. « Donc, si je comprends bien, tu comptes rester encore quelque temps à Rimouski? Je me demande bien ce qui t'attire dans cette grande ville. J'espère que ce n'est pas cet homme que tu as amené ici dans le temps des fêtes. J'ai été bien claire avec ça la dernière fois qu'on s'est parlé. » Clémence fit taire ses propres inquiétudes face à sa relation avec Sylvestre pour défier son frère. Elle considérait que c'était normal qu'elle se questionne sur sa vie avec un homme noir, mais cela ne concernait personne d'autre. Du moins, elle voulait s'en convaincre. Alors, malgré le léger mouvement de tête d'avertissement de Simone, elle leva son menton pour répondre d'un ton sec. « Cet homme, comme tu dis, est un prétendant extraordinaire. Tu le connais pas, Jacqueline. Comment peux-tu le juger? J'ai donc pas envie de le quitter pour revenir m'installer à Lens-à-la-Joie. » Jacqueline fit un rictus choqué en croisant ses mains sur le devant de sa panse. Le trio s'était installé sur le perron de la maisonnette du curé. Les cris des enfants en congé scolaire résonnaient un peu partout dans le village. Depuis peu, Simone laissait sa fille Philomène aller jouer avec ses amis, sans adulte pour les superviser. Par contre, l'enfant avait bien été avisé de ne jamais descendre au bord de la mer. Sérieuse, la petite blonde avait placé ses mains de chaque côté du visage rond de Simone et avait affirmé du haut de ses 8 ans « Je te le promets, maman, je veux pas que tu t'inquiètes, je ferai pas comme Éloi. » Alors, quand les deux sœurs avaient entrepris leur promenade jusqu'à la maison de Bardot de Jacqueline, elles avaient pris chacune une main de Béatrice. L'enfant, impressionné par la longue soutane noire portée par le curé, se tenait silencieuse, assise sur les genoux de sa mère. L'homme de 34 ans souleva son imposante silhouette pour marcher un peu sur la galerie. Il s'arrêta finalement devant sa jeune sœur, les yeux sur son joli visage. « Je suis très offusqué que tu oses fréquenter une personne de ce genre. Tu manques d'encadrement, c'est bien évident. Reviens au village de façon permanente. Ça devrait te remettre les idées bien en place. » Je ne vois pas pourquoi tu t'obstines à rester loin de ta famille, surtout si c'est pour agir de manière aussi peu chrétienne. » Retenant une remarque impertinente, Clémence haussa les épaules en fixant le rocher percé. Depuis qu'elle fréquentait Sylvestre, elle avait tout entendu. Heureusement que Simone l'avait prévenu, les paroles de son frère n'étaient pas une surprise. Mais une grande tristesse l'envahit quand elle songea que même un homme d'église jugeait ainsi une personne à la couleur de sa peau. Elle regrettait d'être venue chez Jacqueline. Elle aurait dû attendre la messe du dimanche. L'homme n'aurait pas pu la sermonner en présence de tous les autres villageois. De plus, Jacqueline, j'apprécie beaucoup mon travail à l'hôpital. Sylvestre rend ma vie plus gaie, bien sûr, mais c'est l'ensemble de tous ces facteurs qui me font rester à Rimouski. Peux-tu essayer de comprendre? C'est un homme pieux, respectueux et travaillant. Je pense qu'il te plairait. Poursuivit Clémence en sachant toutefois qu'elle ne convaincrait pas le curé. Simone mordit sa lèvre, en souhaitant de toutes ses forces que la conversation s'arrête ainsi. Mais c'était bien mal connaître Jacqueline, qui désirait contrôler ses trois sœurs et l'ensemble de ses ouailles le plus possible. « Il a un bien drôle de prénom, évidemment, puisqu'il n'est pas québécois. Il s'appelle Sylvestre comment? Ballant. Sylvestre Ballant, » répéta Jacqueline à voix basse. « Jamais entendu ça. Et que fait-il dans la vie, cet homme différent? Il travaille au progrès du golfe. » Et est-ce nécessaire de rajouter ce qualificatif chaque fois que tu en parles? Je suis tannée de me battre pour faire comprendre aux gens que mon amoureux est aussi respectable que n'importe quel homme. Jacqueline pinça les lèvres fermement pour éviter de dévoiler le fond de sa pensée. Il se rendait compte que la Benjamine avait un fort caractère, et s'il voulait la faire rentrer dans le droit chemin, il lui faudrait user de stratégie. Il reprit donc sa place entre les femmes et se berça quelques secondes sans dire un mot. Puis, il cessa son va-et-vient et tourna sa tête vers Clémence. « As-tu l'intention de me le présenter? »« Bien sûr, » répondit celle-ci, agréablement surprise. Mais il ne pouvait pas s'absenter cette fois-ci. Par contre, lorsque je reviendrai, il devrait m'accompagner. « Parfait. » Jacqueline allait rajouter quelque chose, mais lasse de cet interrogatoire, Clémence remit son chapeau de paille sur sa tête et lança un regard par en dessous à Simone. « Bon, » annonça-t-elle en se levant, « on va y aller nous autres. Simone voulait qu'on aille donner un coup de main à son beau-père sur la grave. « C'est une bonne idée. Tiens, je pense que je vais vous accompagner. Ça fait bien 3 ou 4 jours que je ne suis pas descendue et je vais m'assurer que tout se déroule bien. » Simone tourna la tête pour que son frère ne voie pas sa grimace de dépit. Jacqueline, parce qu'il avait pêché toute son adolescence avec leur père, avait décidé que ses conseils et ses commentaires étaient les bienvenus au sein des familles de pêcheurs. Si Horace était toujours très respectueux et écoutait longuement le curé discourir sur les meilleures techniques pour trancher, évider et saler les morues, les autres travailleurs n'en avaient cure. Les femmes et les hommes qui œuvraient auprès des vigneaux étaient pour ainsi dire nés sur la grave. Ils connaissaient tous les secrets pour s'assurer que leur poisson demeure le plus frais possible. « Je pense que votre couche de chaux n'est pas assez épaisse autour de vos vigneaux. » avait affirmé le curé à une famille qui rageait de voir les mouches se poser sur ses poissons et contribuer à leur dégradation. « Me semble que tes morues sont trop près les unes des autres », avait clamé Jacqueline en s'avançant à côté d'Émile une autre journée. « Elles vont devenir toutes graisseuses si elles se touchent. » Madeleine avait alors fait un signe à leur jeune engagé qui signifiait de ne pas se préoccuper des commentaires du curé. Puis quand Jacqueline s'était approchée de la femme de Cléophas Langevin, qui n'avait pas apprécié de se faire traiter de paresseuse au printemps lorsqu'elle avait été malade pendant quelques jours, il avait affronté une fin de non-recevoir. « J'ai bien l'impression que vos morues sont restées à la pluie. Regardez ça, me semble qu'il y a une couche poivrée sur le dessus. Pas du tout. Mais je vous assure que j'ai dit pas du tout, monsieur le curé. » Quand Jacqueline s'était éloignée de sa démarche hautaine, le vieux voisin de Madame Langevin, qui prenait soin des vigneaux de son gendre, avait grommelé « C'est toujours bien pour un homme en soutane qui va nous dire comment habiller nos morues. » Appréhendant les commentaires que suscitait la présence du curé auprès des villageois sur la grave, Simone tenta de dissuader son frère de manière subtile. « T'es bien certain, Jacqueline? Il fait chaud autour des vigneaux ces temps-ci, c'est pas croyable. Ne t'en fais pas pour moi, je suis fait fort. Tu sais bien que j'ai été pêcheur avant d'être curé. » « Comment l'oublier? » pensa Simone, en déposant sa fille sur le sol pour descendre les quelques marches. Au moins, il a laissé tomber la conversation sur l'amoureux de Clémence. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Les deux femmes, leur frère et Béatrice, se dirigèrent donc d'un bon pas vers la côte du Sureau. Il manquerait juste Madeleine et notre belle famille serait complète, lança Jacqueline d'une voix forte, sans se soucier des sentiments de l'autre jumelle. Clémence tendit la main pour presser le bras de sa sœur et lui jeta un regard triste. Simone n'avait pas besoin des rappels de Jacqueline pour constater que le plus important morceau de sa vie était manquant. Dans de tels moments, la cadette considérait que les remarques et les jugements qu'elle subissait à cause de son couple interracial étaient une bien mince épreuve à comparer à ce que vivaient ses sœurs dans le petit hameau. Elle préférait mille fois vivre un amour compliqué que passer à travers un deuil comme celui des lois. Comme s'il n'avait aucunement conscience du malaise créé par ses paroles, Jacqueline continua dans la même veine. « Si on est chanceux, elle sera sur la grave, on ira la saluer. » Clémence vint pour réagir, mais sa sœur l'arrêta d'un signe discret de la tête. « Il va oublier », glissa Simone d'une voix presque inaudible. Même si elle n'avait pas du tout l'intention de saluer Madeleine depuis le début de l'été, sa jumelle ne pouvait pas s'empêcher de la chercher du regard lorsqu'elle arrivait sur la grave le matin. Croyant que cette dernière devait être retournée chez elle pour le dîner, et peut-être même pour la sieste de son fils, Simone fut surprise en voyant sa silhouette au loin, près des vigneaux de sa famille. À ses côtés, le grand Émile transportait une pleine brouette de poissons prêts à être apprêtés. Jouant l'indifférente, la femme marcha en direction de leurs installations, à l'autre bout de la plage. Son beau-père était assis sur une vieille chaise de métal, en train de déguster un gros morceau de pain garni de graisse de rôti. Il leva la main avant de se tourner vers son voisin, qui prenait lui aussi un peu de temps pour manger. « On s'en vient vous aider, le beau-père !» clama Simone. « Pas de presse, j'ai presque fini de les tourner !» La femme avertit Béatrice de ne pas s'éloigner, et elle s'approcha des vigneaux où leur morue prenait des soleils. Encore quelques cycles et ils pourraient les apporter à Gaston Taillefer. Satisfaite, Simone sourit à l'homme chauve dont le front était couvert de sueur. Horace se leva pour accueillir Clémence, qui arrivait près d'eux après s'être arrêtée à quelques reprises auprès d'amis. Ludivine Lagacé la suivit des yeux en remarquant la tenue peu appropriée pour la grave que portait la rimousquoise d'adoption. La copine de Rosalie fit la moue en jetant un regard sur son tablier plein de sang et à ses mains aux doigts remplis d'ampoules et de gerçures. « Je suis pas à la veille de porter une belle robe fleurie comme ça, moi », murmura-t-elle à sa mère qui suivit son regard, puis haussa ses larges épaules. « En tout cas, elle travaillera pas fort à ranger de même. » Horace embrassa la jeune sœur de Simone sur les deux joues. « De la belle visite, ça !» s'exclama le sexagénaire en la tenant par les épaules. « Bonjour, Horace !» sourit Clémence, qui appréciait beaucoup le père de Tom. « Tu restes longtemps au village ?» s'informa gentiment Horace, en remettant le journal qui enveloppait son dîner dans son vieux sac de cuir. « Une semaine. Je suis arrivée hier soir. Je voulais faire une surprise à ma famille. C'en est une belle. Bon !» « C'est pas que je vais être impolie, mais j'ai de l'ouvrage, moi. Il faut que je parte un peu plus tôt, Simone, parce que je me suis engagée dans une partie d'échecs avec Rosario. Il m'attend chez lui vers 5 heures, ça te dérange pas? » Simone leva les yeux au ciel. « Je vous le dis tout le temps, Horace, vous avez le droit de vous reposer. On peut même engager quelqu'un pour nous aider. Pas question. Tu pourrais demander à Jacqueline? » se moqua Clémence. « Il connaît bien ça, la pêche. » Simone lui fit de gros yeux avant de rire avec elle. Puis, leur tournant le dos, Clémence s'avança près de l'eau et respira l'embrun. Même si le fleuve bordant Rimouski était le même, il n'y avait qu'ici que l'odeur la chavirait autant. Prenant son courage à deux mains, elle s'approcha de sa sœur et lui dit, évitant de trop la regarder, « Je vais aller saluer Maddy. C'est correct, hein? » Sans répondre, Simone ne fit que hocher la tête. Quand sa cadette s'éloigna, elle fixa longuement la robe bleue à fleurs blanches en se retenant de crier qu'elle aussi, elle voulait aller voir Madeleine.